Le Canadien de Montréal est en crise. Comment est-ce qu'on peut s'en sortir? Ben, j'ai dit, je vais appeler Martin Brodeur. Peut-être qu'il y a des solutions. Salut, Martin, comment ça va, Martin?
Ça va bien. Je sais pas si j'ai une solution pour toi, mais
as-tu déjà vécu ça, toi, une série comme ça, de 8 revers consécutifs?
Écoute, j'ai joué pendant 22 ans. Fait que c'est sûr que c'est arrivé à un moment donné, là, mais je m'en rappelle pas. c'est comme qu'on dit, hein? Tu rappelles de ce qui se passe en ce moment, c'est mais vrai. Des années après, tu oublies ça vite.
tu veux l'oublier. Comment tu fais pour t'en sortir comme joueur? Tu sais, même si tu avais connu, même des séquences de 4, 5, 6 revers d'affilée, là, c'est bien beau de te regrouper et tout ça. Ça prend-tu un leader? Ça prend-tu le capitaine qui se lève? L'intervention du DG?
Ben, écoute, nous autres, on avait toujours un gérant général qui était vraiment sur notre cas tout le temps. Tu comprends? Il ne nous laissait pas glisser trop.
OK. À
chaque fois qu'il arrivait des choses de même, Lou, il en avait assez, puis il descendait, puis tu savais quand il venait adresser l'équipe dans le locker room, ça faisait de la business, là, puis il y avait des changements, il y a bien des choses qui pourraient arriver, tu le sens le matin, t'arrives à l'aréna, tu sais que ça va pas bien, puis ouais. Là que tu vois que les coachs sont pas confortables, parce que tu sais que le gros boss descend en bas, parler aux joueurs, parler aux coachs en même temps. Nous autres, c'est de la manière qu'on opérait au New Jersey avec Lou Lamoriello. Mais tu sais, nécessairement, tes leaders, les personnes qui sont dans le locker room, c'est juste les joueurs qui peuvent s'en sortir de ces choses-là. L'entraîneur peut faire qu'est-ce qu'il veut. Le GM peut faire qu'est-ce qu'il veut. À la fin de la journée, c'est les joueurs qui embarquent sur la patinoire qui ont leur destin dans leurs mains. Puis nécessairement comme individuellement, je pense que c'est là que faut que tu challenges. Tu sais, c'est bien beau avec le groupe y penser, mais nécessairement quand toi tu te regardes dans le miroir, faut que tu sois capable d'être satisfait à chaque jour que tu vas sur la patinoire. Puis, je pense que si chaque joueur est capable d'être satisfait quand il se regarde dans le miroir, dire, écoute, à ce soir, j'ai tout fait, ça n'a pas marché. Mm. Là, à un moment donné, tu le fais assez souvent, ça, les bonnes choses vont arriver. Puis je pense que c'est la seule manière que tu peux t'en sortir. C'est vraiment t'en regarder et non commencer à pointer du doigt. Ben là, moi, j'ai bien joué. Mais tu sais, t'essaies pas de pointer du doigt, c'est vraiment ta personne qui va t'en sortir le plus.
Il y a l'entraîneur ici, Claude Julien. Moi, je trouve qu'il fait un bon travail avec ce qu'il a sous la main, tu comprends? Puis tu me parlais de Lou Lamoriello tantôt. En 2006-2007, Lou Lamoriello avait comme entraîneur-chef Claude Julien, justement. Puis à la fin de l'année, il avait décidé, c'est moi qui vais aller derrière le banc. Je m'en souviendrai tout le temps de ça. Un move de même, une décision de même, c'est quand même une décision gutsy. Le directeur général qui dit à l'entraîneur, je pense pas que tu vas m'emmener loin en série. Tu t'en souviens de ça, toi aussi, hein?
Certainement, surtout avec Claude, j'ai eu beaucoup de communication cette saison-là avec Claude parce que c'était une bonne entraîneur dans une organisation qui était pas mal établie, puis Claude, on était content de l'avoir, puis on a eu vraiment une bonne saison.
Oui.
Mais je pense que Lou dans ces temps-là, lui, il avait pour son dire qu'il y avait un genre de vite ou un window qu'on peut dire pour gagner. Puis lui, il croyait pas qu'en ayant Claude Julien dans ce temps-là, il fallait qu'il fasse un changement. De où qu'il a entendu ça, écoute, t'as des joueurs qui vont parler aux gens général, t'as des assistants coach, t'as bien du monde qui a reçu des informations puis qui n'aimait pas que ce qu'il entendait. Puis il a décidé de prendre cette décision-là. Lui, à la fin de la journée, il pensait ça. Tout de suite après ce move-là, on a quand même gagné en 4 contre les Rangers. Après ça, on a eu comme 10 jours off. Puis on a perdu l'autre série d'après. Ça aurait pu marcher, comme ça a marché en 2000, quand on était en première position, on a décidé de mettre dehors Robbie Thorek, puis Larry Robinson a pris charge avec 10 rencontres à faire, puis on a gagné la Coupe Stanley cette année-là. Fait que tu sais, des fois, quand tu as du succès en faisant une chose, des fois, tu dis, bon, on va prendre un gamble. Puis comme je te dis, je pense que Claude, personnellement, il avait fait tellement une bonne job avec nous autres, que même nous autres, ça a été pour nous autres qui a été plus décevant, parce que, tu sais, tu laisses tomber quand même une personne. Quand un entraîneur décide de se faire congédier, les joueurs, il faut que tu prennes ça à cœur parce que, écoute, c'est toi qui joues, c'est pas le coach.
T'as bien raison. C'est triste, mais la job d'un coach, c'est d'être engagé, mais absolument être congédié à un moment donné. C'est ça qui est frustrant. Écoute, laisse-moi te parler d'un gars. Toi, qui a été le gardien de but avec le plus de victoires dans toute la Ligue nationale de hockey, 691, victoires, 2 médailles d'or aux Olympiques, 3 Coupes Stanley. Je veux que tu parles du gardien de but dont tu as dit qu'il était probablement, je pense que tu l'avais dit, le meilleur gardien de but de la Ligue, qui vit des moments très difficiles actuellement. Puis je te le dis, moi, comme ex-gardien de but, je le regarde aller et je le trouve extrêmement courageux. Son équipe alloue des 2-1, des échappés. C'est tout croche en défense, Martin. Tu as vu les matchs. Tu as vu les matchs des Devils contre le Canadien. Comment tu vois sa situation à toi, ce qu'il vit actuellement?
Ben, c'est une situation que c'est difficile parce que tu sais que ça revient encore de l'attitude de la personne. Je pense que lui, il sait c'est qu'est-ce qu'il est capable d'apporter. Puis nécessairement, l'équipe devant toi, tu sais, ça dérange pas comment que t'es bon. Si l'équipe devant toi joue pas devant toi, tu seras pas capable de le faire tout seul. Tu vas peut-être capable de le faire de temps en temps, que tu vas sortir une performance qui va te faire gagner une game. Mais le trois quarts du temps, si ton équipe joue pas bien, puis comme tu dis, surtout, dans le nouveau hockey, il y a déjà beaucoup plus de chances de scorer qu'il y avait à cause que maintenant, il n'y a plus d'accrochage, il n'y a plus de autour du filet, les joueurs ne se font pas bousculer, ils ne se font pas frapper, ils ne payent pas vraiment le prix pour être dans le crease. En plus, si tu donnes des 2-1 puis des breakaways, ça devient difficile de garder un but. Tu sais, comme je regarde ça en ce moment, puis tu sais, moi, je fais pas beaucoup d'affaires sur le hockey au New Jersey, mais je suis quand même un gros fan du hockey, puis je regarde beaucoup de games. Sur New Jersey, je regarde nos games. Puis la job d'un gardien de but en ce moment est très difficile. Surtout si tu as une équipe qui est pas dans les grosses équipes, là, quand on parle de Washington, Saint-Louis, des affaires de même, qu'eux autres sont bâtis par la défense, des joueurs qui contrôlent la rondelle, comme Ovechkin, puis Backstrom, puis Kuznetsov, puis Oshie. Ça devient difficile. Tu regardes les matchs, la qualité des chances qu'ils reçoivent, la quantité de lancers, les power plays. Nous autres, dans le temps, s'il restait 30 secondes dans notre zone sur 2 minutes, c'était beau, là.
Ouais.
Maintenant, là, ça, c'est à coup de minute 20, 1 minute 30, sur dans ta zone. Ça devient drainant, là, pour tout le monde. Puis, tu sais, nécessairement, Price, il a sa job à qu'est-ce qu'il fait à Montréal. C'est toujours une job ingrat, un petit peu à Montréal, parce que tu vas toujours au résultat immédiat et non le résultat de l'année au complet. Et en ce moment, il passe pas nécessairement lui-même, mais l'équipe ne veut pas du super 8 game collé. C'est pas facile à apprendre pour personne. Mais écoute, il faut que tu compétitionnes. Si tu compétitionnes, puis je pense les deux derniers matchs, j'ai regardé du Canadien, c'est du contre les Flyers, je pense.
Oui, Flyers.
Contre Boston. Ils ont compétitionné à tabarouette, là.
Ouais.
Il faut que ça commence à quelque part, s'en sortir. Puis je pense qu'on suit le chemin. C'est qu'à un moment donné, ils vont pogner un break, là. C'est leur équipe. Moi, je parle comme un fan en ce moment parce que, comme je te dis, je suis pas vraiment involved dans le hockey trop maintenant.
Martin Brodeur est avec les Devils. Il est VP exécutif du développement des affaires. Tu parlais tantôt, dans l'immédiat ou plus tard, vous autres, là, vous êtes pas mal dans le reset, si on peut dire. Je ne sais pas si vous êtes en période de reconstruction, mais vous êtes en reset. L'année passée, vous étiez exclu des séries. L'année d'avant, vous avez fait quoi? Une ronde. Là, vous êtes comme, selon moi, en reset. Vous regardez l'avenir avec beaucoup d'optimisme, mais vous savez que ça va être dur de faire des séries. Là, vous avez un gars du nom de Taylor Hall. Je ne sais pas si tu peux m'en parler. Mais lui, il est sans contrat l'année prochaine et tout ça. C'est-tu vrai, les rumeurs? Est-ce que tu peux confirmer qu'il y a des rumeurs à son égard pour une possible transaction? On en parle tellement.
Oui, parce que comme tout le monde, j'ai lu ça dans les journaux, puis toi, t'inquiète, à propos. Nécessairement, un joueur de ce calibre-là qui est sans contrat, il va avoir beaucoup de rumeurs qui va être à côté de lui. Surtout, avec le début de saison que les Devils connaissent, puis avec la situation de son contrat, puis le fait qu'il ait joué à Montréal deux fois dans les dernières deux semaines,
ouais.
Je pense qu'il y a beaucoup de rumeurs qui sortent à cause de ça. Puis ça a été la même chose. Au début de l'année, on est allé jouer dans l'Ouest canadien, puis là, il était supposé d'aller à Edmonton.
OK.
c'est des rumeurs. Écoute, je pense que ça va être la situation... aide à mettre un petit peu d'huile dans le feu pour les rumeurs. En espérant, nous autres, on espère être capable de signer. En tout cas, c'est les dernières nouvelles que j'ai eues du New Jersey.
Mm-hmm.
Je sais pas les situations, c'est où, parce que, comme je te dis, j'ai pas d'affaires trop dans le hockey.
Okay.
Mais je sais que pour nous autres, notre fan base, puis l'équipe, écoute, c'est tout un joueur de hockey, on aimerait ça le garder. Mais il a toutes les cartes dans ses mains, fait qu'on va voir qu'est-ce qu'il va décider. C'est sûr et certain que tout le monde va regarder ce qui est arrivé avec avec John Tavares à Toronto, puis les Islanders une couple d'années. Tu comprends?
Ouais,
Fait que c'est
ça.
des choses que faut que tu fasses attention un petit peu pour le futur de ta franchise, mais Rich Hero, c'est pas son premier rodeo, comme qu'on dit, fait que j'ai confiance qu'il va prendre les bonnes décisions, puis en espérant qu'on soit capable de signer.
Kincaid a été soumis au ballotage, tu l'as connu, Kincaid. D'abord, je vais te poser la question, étais-tu surpris de savoir que ça venait à Montréal, Kincaid? C'est-tu un gardien dont tu avais une haute estime? Comment tu le trouvais, Kincaid?
Écoute, moi, je l'ai pas connu comme joueur vraiment. Quand l'année passée, je suis revenu dans l'organisation des Devils, il n'y a pas eu une grosse saison. On l'a échangé à la fin d'année à Columbus. Mais l'année d'avant, c'est à cause de lui que les Devils ont fait le play-off.
Ah.
Écoute, il y a eu un stretch là, quand ça a été l'année que Taylor Hall a gagné le MVP. Mm-hmm. Schneider, il était blessé toute la saison ou presque. Puis c'est lui vraiment qui a tenu le fort pendant tout ce temps-là, puis il a amené les Devils dans le playoff la seule fois dans les 7 ou 8 dernières années, je pense. Je peux me tromper dans les années. Là. Okay. Mais l'année passée, il a vraiment eu une saison difficile, puis il a été échangé à la fin, puis il était quand même troisième gardien de but en arrière de Corpusalo à Columbus. Le fait qu'il ait joué, moi je pense que c'est un gars qui était quand même c'est un bon gars d'équipe. Quand tu as un backup, c'est toujours ça que tu recherches. Je le connais pas très bien, fait que je n'ai pas vraiment une opinion, puis j'ai pas vraiment regardé ses performances non plus.
Okay.
Mais écoute, quand tu te fais mettre sur le balotage, nous autres, par l'entremise, nous autres, Schneider, on l'a mis au balotage aussi.
C'est
un gardien de but qui fait 6 millions. Là,
c'est ça.
Ils ont décidé de le faire aussi. Fait que tu sais jamais, ces gars-là, surtout à des salaires de même, peut t'en virer puis aller passer un séjour d'un mineur. Puis lui, ça fait quand même longtemps qu'il n'est pas allé jouer d'un mineur. Il va peut-être gagner sa confiance puis revenir en haut à un moment donné. Parce que quand tu éclaires le balotage, ben, tu as quand même 30 jours que tu peux faire ce que tu veux avec le joueur.
Ouais. Tu as certainement connu ou entendu parler ou même étudié ce gars-là, Caden Primo. Moi, je l'aime. Je te dis, Martin, là, moi, c'est mon genre de gardien de but. C'est un gars qui, selon moi, va faire une carrière dans la Ligue nationale comme numéro un jour. Ils l'ont finalement rappelé aujourd'hui avec Price, fait qu'ils vont peut-être y permettre de jouer quelques matchs et tout ça. Est-ce que tu le connais, Caden Primo?
Je le connais pas très bien. J'ai entendu beaucoup de bonnes choses, surtout à l'année de son repêchage, parce que pas, j'étais là-dedans. Mais j'ai pas eu la chance de le voir jouer. Comme je te dis, je sais que l'estime du monde est très élevée envers lui. Fait que c'est le fun. C'est le fun pour un jeune gardien d'avoir un break tout dans le national. En tout cas, j'espère que ça va bien aller pour lui. Quand t'es jeune, faut que t'aies beaucoup de support autour de toi. Moi, j'étais pas mal chanceux au New Jersey. Quand j'ai commencé vraiment avec une bonne équipe en partant. Ouais. Fait que ça aide un peu la manière que tu t'es capable de jouer puis la manière que t'es supporté aussi.
Hey, écoute, Martin, je veux pas prendre trop de ton temps. J'ai deux bonnes questions. La première, vague de dénonciation. Moi, ça m'a pris par surprise, je te l'avoue, parce que j'ai connu les périodes où les entraîneurs abusaient de leur pouvoir, évidemment. On proférait des propos racistes, je ne sais pas. Me faire traiter de frog, c'est-tu raciste? Certains vont dire que oui. Moi, je le pensais à un moment donné, là, ça m'agaçait un peu. Il y en a qui ont tenu des propos diffamatoires. Il y a un paquet de noms. Ton chum! Sean Avery, celui qui te fait des grimaces, il a dénoncé Mike Crawford il y a ça à peine 48 heures. T'es-tu surpris de cela, toi?
Un petit peu, c'est sûr. Je pense que, tu sais, moi, j'ai grandi dans le hockey toute ma vie, que ce soit à travers ma famille, que mon père était proche du Canadien, que mon frère Claude il a joué au baseball professionnel. J'étais dans le sport toute ma vie, puis j'en ai vu, puis j'ai entendu, puis je pense que c'est comme n'importe quoi, c'est tu le vois, puis tu réalises pas qu'est-ce qui se passe, puis quand le monde décide d'en parler, ben, tu dis waouh, c'est vrai, tu sais, dans le temps, c'est le même.
C'est vrai.
Mais tu sais, nécessairement, c'est pas quelque chose que j'ai jamais vu, moi, dans l'organisation des Devils, que ça a été vraiment quelque chose qui a été un problème pour nous autres.
Ouais.
Puis peut-être que je t'aveugle. Peut-être que je t'aveugle, puis il y a du monde qu'eux autres ils ont pensé que c'était un problème. On va le voir, là, je peux pas te le dire. Mais moi, comme je te dis, j'étais fier de jouer au hockey, puis je m'en ai fait dire des affaires, moi aussi, comme je te dis. On est des Québécois qui jouent au hockey aux États-Unis ou pour le Canada anglais, n'importe où. Fait qu'on entend parler des bêtes des pommures, mais c'est pas quelque chose qui qui me dérangeait du tout que quand moi jouais. Là.
Il y a de ça deux matchs, Piquet a été hué sérieusement à Montréal, à chaque fois qu'il touchait à la rondelle. Le dernier match, un peu moins. L'acquisition de Piquet pour vous autres, c'était important, je t'ai déjà entendu là-dessus. Mais comment tu as trouvé ça? Et qu'est-ce que tu penses de Piquet depuis le début de l'année, même si ce n'est pas une année formidable pour lui, un début de saison formidable? Comment tu as trouvé le fait qu'il s'est fait huer à Montréal? C'était assez spécial, hein? Tu trouves pas?
Ouais, je trouve ça bizarre parce que j'ai jamais pensé que le monde de Montréal avait quelque chose contre lui. Tout le monde était vraiment à Colline.
C'est vrai.
Il était à Colline qu'il soit parti plus que d'autres choses.
Ouais.
Fait que ça me, comme tout le monde, je pense que ça m'a surpris un peu la réaction.
Ouais.
Mais à la fin de la journée, les partisans peuvent faire ce qu'ils veulent là-dedans. Ça, c'est leur chose. Ils veulent avoir du fun à une game de hockey. À propos de ses performances, bon, c'est sûr que nous autres, tous nos joueurs, on n'est pas où qu'on devrait être dans la saison. Fait que tu peux pas. Piquet, c'est une personne qu'on est allé chercher. On a fait un gros move, puis on a besoin de son leadership, toute l'équipe. Puis il fait quand même une très bonne job en dehors de la patinoire. Puis sur la patinoire, tranquillement, pas vite, il commence à être un petit peu plus constant. Il joue des games de plus en mieux, de mieux en mieux. Mm-hmm. Fait qu'en espérant qu'il continue son ajustement, son rôle est différent que peut-être qu'il était ailleurs. Fait que, comme je te dis, j'ai pas regardé énormément de games ou regardé Piquet comme tel. À la fin de la journée, c'est les résultats qui comptent. Puis nous autres, on est quoi, 30e dans la Ligue en ce moment? Fait qu'on peut pas être bien content.
Toujours très agréable, Marty. Merci beaucoup, Martin Brodeur. On se reparle et on se voit bientôt, assurément. Lâche pas.
OK, Ron.
OK. Bye-bye. Attention à toi. Bye-bye.